Bonjour et bienvenue dans l'édition du jour de notre podcast Hacker News en français. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Aujourd'hui, on a une sélection qui tient en une phrase. La course effrénée des modèles d'IA, ses promesses, ses précipitations et tout ce qui gravite autour, du génome aux infrastructures qui lâchent en passant par le logiciel libre et le bricolage maison.
Exactement. On va prendre le temps sur chaque sujet, discuter, nuancer et voir ce que disent les commentateurs. On commence fort avec la course aux modèles.
Alors, trois infos majeures sur ce front ces dernières 24 heures. La première vient d'Inception, Mercury 2 mai, un LLM de diffusion. Et là, il faut expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est une architecture différente des modèles classiques.
Oui, les modèles traditionnels génèrent le texte token par token, de gauche à droite. Un modèle de diffusion, lui, travaille autrement, et le résultat est spectaculaire, 1107 tokens par seconde. Pour mettre en perspective, c'est largement plus rapide que ce qu'on voit habituellement, même sur du gros matériel.
Et ce n'est pas que de la vitesse. Mercury 2 mai affiche un contexte de 264 tokens et Inception annonce qu'il est 40% plus intelligent que Mercury 2. Donc rapidité, long contexte et gain de qualité en même temps.
Ce qui est intéressant dans les discussions, c'est le scepticisme classique. Est-ce que les benchmarks reflètent vraiment l'usage réel? Certains commentateurs disent que la vitesse de génération change fondamentalement l'expérience utilisateur, qu'on peut enfin avoir des interactions vraiment fluides. D'autres attendent de voir en production, parce qu'on a déjà vu des modèles brillants sur papier décevoir en conditions réelles.
C'est un point juste. Et c'est d'autant plus pertinent que la deuxième info de la journée change complètement d'échelle. Mistral a levé 3 milliards d'euros en série D.
3 milliards d'euros, avec une valorisation supérieure à 21 milliards. Et c'est apparemment la plus grande ronde de financement en Europe pour l'IA. La levée est menée par Samsung et le positionnement est clair, l'IA souveraine en open white.
L'IA souveraine, ça veut dire quoi concrètement? Que des entreprises, des États, veulent des modèles qu'ils peuvent héberger, auditer, contrôler, plutôt que de dépendre des géants américains. Mistral joue cette carte-là, et visiblement, ça mobilise des capitaux considérables.
Et dans les commentaires, il y a un vrai débat. D'un côté, ceux qui voient ça comme une bonne nouvelle pour l'écosystème européen, enfin un acteur qui pèse, qui publie des poids ouverts, qui offre une alternative crédible. De l'autre, ceux qui posent la question du business model. Comment une entreprise qui lève autant peut-elle rentabiliser des modèles open-weight? C'est une tension réelle et personne n'a vraiment de réponse définitive.
Et puis il y a la question de l'influence. Samsung en lead investor, c'est un signal. Ça montre que la Corée du Sud, comme l'Europe, veut un pied dans cette course sans dépendre uniquement d'OpenAI ou d'Anthropic.
Maintenant, la troisième info de ce bloc est presque la contrepoint des deux premières. Parce que pendant que Mercury génère 1000 tokens par seconde et que Mistral lève des milliards, quelqu'un a fait tourner un modèle géant sur un MacBook.
Oui, parlons-en, c'est mon sujet préféré de la journée. Kimi K3, un modèle de 2,78 trillions de paramètres en architecture MeoE, Mixture of Experts. Et quelqu'un le fait tourner sur un MacBook M5 Max à environ un token par seconde.
Un token par seconde, c'est lent. Une phrase par seconde, à peu près. Mais le fait que ce soit possible du tout est fascinant. Comment ça marche?
La clé, c'est le MeoE. Dans un Mixture of Experts, seuls certains experts du modèle sont activés pour chaque token. Donc au lieu de charger les 2,78 trillions de paramètres en mémoire, le système lit depuis 4 SSD les poids des experts au fur et à mesure qu'ils sont nécessaires. C'est du streaming de poids, en quelque sorte.
Et ça, dans les commentaires, ça a suscité pas mal d'enthousiasme technique. L'idée que la bande passante SSD devient le nouveau facteur limitant, plutôt que la mémoire. Certains y voient l'avenir de l'inférence locale. On n'aura peut-être pas besoin de mettre le modèle entier en RAM. On pourra le lire depuis le disque à la demande.
D'autres temporisent. À un token par seconde, l'usage reste limité. Ce n'est pas confortable pour du travail quotidien. Mais comme preuve de concept, comme démonstration que le matériel grand public peut, avec de l'ingénierie, exécuter des modèles de cette taille, c'est remarquable.
Et je pense que ça préfigure la prochaine étape de la course. La vitesse et la taille, c'est fait. L'efficience locale, c'est le prochain champ de bataille. Faire tourner des modèles puissants sur des machines qu'on possède déjà, sans envoyer nos données ailleurs.
Et cette effervescence, cette précipitation à annoncer des résultats, ça nous amène naturellement à notre deuxième sujet, qui est peut-être le plus croustillant de la journée. Une dispute de crédit en mathématiques autour du problème de Navier-Stokes.
Alors, posons le décor. Les équations de Navier-Stokes décrivent le mouvement des fluides. L'existence et la régularité de leur solution en trois dimensions est l'un des problèmes du millénaire, avec $1 million à la clé. C'est un problème ouvert majeur depuis des décennies.
Et cette semaine, deux événements quasiment simultanés. D'un côté, Buckminster et Alpuge, deux mathématiciens, dont un de NYU, annoncent un contre-exemple de Navier-Stokes. Un contre-exemple, ça voudrait dire que la conjecture d'existence et régularité est fausse, que certaines solutions explosent.
Et de l'autre côté, OpenAI annonce de son côté une solution, avec une preuve formelle en ligne, du problème d'existence et de régularité. Donc l'opposé, en quelque sorte, ils affirment que ça existe et que c'est régulier. Lean, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un assistant de preuve où chaque étape est vérifiée par machine.
Là où ça devient houleux, c'est que Buckmaster et Al Pudge accusent OpenAI d'avoir accéléré un résultat parallèle, et surtout d'avoir utilisé leur chat. Leur conversation avec l'IA, apparemment, aurait servi dans le processus.
Le mathématicien du NYU parle de conduite agressive de la part d'OpenAI, et dans les commentaires, le débat fait rage. Certains sont catégoriques. Utiliser les chats de chercheurs pour précipiter une annonce concurrente, c'est une violation d'étiquette scientifique majeure et ça pose des questions sérieuses sur la confidentialité des conversations avec les assistants IA.
D'autres sont plus sceptiques envers les plaignants. Dans une course de priorité scientifique, les accusations de sabotage arrivent souvent et il faudrait des preuves concrètes. Et puis il y a un point que plusieurs commentateurs soulèvent qui est presque le plus important. Ces deux annonces se contredisent.
Oui, c'est ça qui est vertigineux. Un contre-exemple et une preuve d'existence et régularité, ça ne peut pas être vrai en même temps. Une des deux affirmations est fausse, ou alors elle ne porte pas exactement sur les mêmes formulations du problème, ce qui serait aussi intéressant à élucider.
Et le fait que la preuve d'OpenAI soit formelle, en ligne, change la donne. Si la preuve compile vraiment et que l'énoncé formalisé correspond bien au problème du millénaire, alors la vérification est mécanique. Les commentateurs demandent donc, où est le fichier ligne ? Qu'il a vérifié indépendamment. Est-ce que l'énoncé formalisé est le bon ?
C'est la vraie question à suivre. Laquelle de ces preuves tiendra ? Et au-delà de ce cas particulier, il y a un enjeu plus large, bien résumé par Terence Tao, qui était cité dans les discussions.
Oui, Tao dit que les bons problèmes ouverts de mathématiques se minent de façon non renouvelable par l'IA. L'image de la mine, c'est parlant. Un problème ouvert, c'est un gisement. Une fois exploité, il n'y en a plus. Et si l'IA exploite ces gisements à grande vitesse, il n'y a pas de régénération.
Certains commentateurs tempèrent. Les mathématiques génèrent aussi de nouveaux problèmes en résolvant les anciens. Chaque théorème ouvre des questions. Mais d'autres sont d'accord avec Tao sur le fond. Les problèmes iconiques, ceux qui mobilisent des générations et structurent un domaine, ceux-là sont finis en nombre. Et si l'IA les consomme en quelques années, il restera quoi comme boussole pour la discipline ?
C'est une question ouverte, honnêtement. Et elle dépasse les maths. Passons maintenant à un domaine où l'IA applique sa puissance prédictive à autre chose que du texte, la biologie.
DeepMind a lancé Alpha Genome Atlas. Et là encore, l'échelle est ahurissante. Le système prédit les effets moléculaires de 9 milliards de variantes d'une seule lettre dans le génome humain.
9 milliards de variantes. Le génome humain fait environ 3 milliards de paires de bases, donc ils ont essentiellement balayé toutes les substitutions possibles d'un nucléotide. Et le dataset qui en résulte fait un pétaoctet, avec un score appelé AVI.
Pour comprendre pourquoi c'est important, une immense partie des mutations génétiques associées à des maladies ne se trouvent pas dans les gènes eux-mêmes, mais dans les régions régulatrices, celles qui contrôlent quand et où un gène s'exprime. Prédire l'effet moléculaire de chaque variante possible, c'est donner aux chercheurs une carte de l'influence de n'importe quelle lettre du génome.
Et dans les discussions, on voit deux camps, comme souvent. Les enthousiastes disent que ça va accélérer l'interprétation des études d'associations pangénomiques, qu'on pourra prioriser les variantes à étudier expérimentalement. Les prudents rappellent que ce sont des prédictions, pas des mesures. Une prédiction à cette échelle doit être validée, et c'est la validation clinique qui dira si l'outil tient ses promesses.
Exactement, c'est le point à suivre, la validation clinique. Un score prédictif sur 9 milliards de variantes, c'est impressionnant. Mais en biologie, la véracité d'une prédiction se juge en laboratoire et in fine auprès des patients.
Et il y a un autre point intéressant. L'IA passe ici de la prédiction de texte à la prédiction biologique. On quitte le domaine des données linguistiques pour celui des données du vivant. Certains commentateurs y voient le modèle d'avenir. Moins de chatbots, plus d'outils scientifiques spécialisés.
Mais justement, ces modèles qui prédisent tout et n'importe quoi, ils ont aussi un défaut fascinant qu'une étude récente a mis en lumière. Ils inventent des biais là où il n'y a rien à biaiser.
Alors expliquons ça parce que c'est contre-intuitif. L'étude montre que les LLM développent des stéréotypes sociaux nouveaux, pas appris du réel, à propos de groupes démographiques fictifs. Des groupes inventés, sans aucune différence inhérente, simplement définis par des noms ou des étiquettes arbitraires.
Et pourtant le modèle leur attribue des caractéristiques, des traits, des hiérarchies implicites. Ce n'est pas un reflet des données du monde réel, puisqu'il n'existe pas de données sur ces groupes fictifs. C'est une tendance du modèle lui-même à structurer le monde en stéréotypes.
Et ça, dans les commentaires, ça relance un vieux débat. Beaucoup de gens disaient « les biais des LLM sont un miroir de nos biais, on corrige les données et on corrige le modèle ». Cette étude complique cette histoire, puisque même sans données reflétant des différences, le modèle en fabrique.
Certains commentateurs proposent une explication. La structure même du langage, la façon dont les textes attribuent des propriétés à des catégories suffit peut-être à induire ce comportement. Le modèle apprend qu'on parle des groupes en généralisant, et il généralise même quand il ne devrait pas.
Et c'est troublant de mettre ça en parallèle avec une histoire que tu voulais raconter, celle des saints Barlaam et Josaphat.
Oui, une anecdote historique magnifique. Barlaam et Josaphat sont des saints chrétiens canonisés, avec leur histoire, leur culte, et leur histoire dérive en fait de la vie du Bouddha, transformée au fil de traductions successives à travers les langues et les cultures.
Donc un récit bouddhiste devient une histoire chrétienne, au point que le Bouddha finit canonisé en saint de l'Église. C'est l'illustration parfaite que les récits se transforment en traversant les langues, qu'ils mutent, qu'ils se réinterprètent, parfois jusqu'à devenir méconnaissables.
Et la connexion avec les LLM est presque poétique. Les modèles apprennent des histoires qui ont muté en traversant les langues, et ils produisent à leur tour des récits, des associations, des stéréotypes qui eux aussi mutent. Sauf qu'eux, ils le font à très grande vitesse et à grande échelle.
Et ça rejoint l'avertissement d'un auteur cité dans les discussions, qui estime qu'il reste environ un an pour régler la question de la sécurité globale. Son argument, GLM 5.3 Flash, un modèle ouvert et bon marché, permet désormais à n'importe qui d'exécuter des attaques à grande échelle.
C'est un argument qui divise fortement les commentateurs, il faut le dire. D'un côté, ceux qui pensent que la démocratisation de modèles capables et peu coûteux abaisse vraiment la barrière pour des attaques automatisées, et qu'un délai d'un an pour mettre en place des défenses est une estimation réaliste, voire optimiste.
De l'autre, ceux qui trouvent ce genre de compte à rebours alarmiste, qui rappelle que les défenses évoluent aussi, et qu'on a déjà entendu des prédictions similaires à chaque saut de capacité. Mais même les sceptiques admettent que le combination modèle ouvert plus faible coût change l'équation de la sécurité.
Et cette inquiétude sur l'usage des outils, elle nous mène tout droit à notre sujet suivant. Ce que les États et les entreprises font avec les données, et comment le consentement se fabrique ou se contourne.
Alors, deux révélations cette semaine sur ce front. La première vient de 404 Médias, qui a enquêté sur des unités appelées PIT du Border Patrol américain.
Ce que révèle l'enquête, c'est que ces unités analysent des données financières de citoyens américains et coordonnent des interpellations sans cause spécifique. Donc pas besoin de suspicion particulière, les données financières suffisent à déclencher une coordination d'arrestation.
Les commentateurs sont évidemment très remontés. Plusieurs soulèvent le même point. Il y a un écart énorme entre ce que le public croit être légal et ce que ces agences font réellement. Beaucoup de gens pensent que leurs données bancaires sont protégées, et cette enquête suggère le contraire, en tout cas pour ces unités.
D'autres commentateurs, plus fatalistes, disent que ce n'est que la partie visible. Si une agence fait ça, d'autres probablement aussi, et qu'on ne découvre ces pratiques que par fuite et enquête de presse. La question de la surveillance légale et de son encadrement reste entièrement ouverte.
Et l'autre révélation, c'est Paramount. L'entreprise a utilisé un groupe AstroTurf appelé Neighbors for Strong Communities pour simuler un soutien populaire à sa fusion.
L'astroturfing, pour nos auditeurs, c'est fabriquer de toutes pièces une apparence de mouvement citoyen. Le nom même du groupe, Neighbors for Strong Communities, des voisins pour des communautés fortes, sonne comme une association de quartier. Sauf que derrière, c'est une campagne d'entreprise.
Et ce qui frappe dans les commentaires, c'est que beaucoup disent que ce n'est pas surprenant, que le lobbying déguisé existe depuis toujours. Mais d'autres insistent sur le fait que ça pose un problème de fond. Quand une partie du débat public est fabriquée, comment les régulateurs et les citoyens peuvent-ils savoir quelles opinions sont authentiques ?
Le thème commun des deux histoires, c'est le consentement, fabriqué ou contourné. Dans le cas du Border Patrol, des citoyens ne consentent pas à l'analyse de leurs données financières. Dans le cas de Paramount, on fabrique un faux consentement public. Dans les deux cas, le processus démocratique et légal est court-circuité.
Et certains commentateurs mentionnent l'initiative australienne dans ce contexte, la proposition de loi My Feed My Way. Les utilisateurs de plus de 16 ans pourraient choisir un fil chronologique sans contenu recommandé par algorithme.
C'est un petit geste en comparaison, mais il va dans la même direction, redonner du contrôle. Le principe est simple. Tu as le droit de voir tes publications dans l'ordre chronologique sans qu'un algorithme décide de ce que tu vois. Certains y voient un modèle à suivre, d'autres une mesure symbolique qui ne changera pas grand-chose au comportement des plateformes. La bataille du consentement se joue aussi là, dans les fils d'actualité.
Et la surveillance, justement, elle se retrouve maintenant jusque sur les visages, avec l'actualité Meta, parlons-en.
Deux histoires. La première. Meta lance Muse, un agent d'IA personnel. Un assistant qui, par définition, doit connaître des choses intimes sur vous pour vous être utile.
Et les commentaires sont, disons, unanimes dans leur scepticisme, ce qui est rare. Le fil est rempli de gens qui disent, en substance, « Confiez mes données personnelles à Meta, l'entreprise dont le modèle économique repose sur la publicité ciblée et dont l'histoire en matière de confidentialité est ce qu'elle est. Non merci. »
Ce qui est intéressant, c'est que le scepticisme ne porte pas sur la technologie en elle-même. Un agent IA personnel est une idée séduisante, beaucoup de gens en veulent un. Le blocage est purement sur la confiance envers l'entreprise qui le fournit. C'est un problème de réputation, pas de produit.
Et la deuxième histoire rend la chose encore plus délicate. La police craint que les lunettes connectées de Meta puissent enregistrer secrètement des agents et l'intérieur des établissements de détention.
C'est un renversement savoureux, il faut le souligner. La technologie de surveillance portable, qu'on imaginait comme un outil au service des forces de l'ordre, devient une source d'inquiétude pour ces mêmes forces. N'importe qui avec des lunettes connectées pourrait capturer des images dans des lieux sensibles.
Les commentateurs relèvent l'ironie, évidemment. Certains disent que c'est un problème réel de sécurité opérationnelle, les agents et les détenus ont droit à une forme de confidentialité dans ces lieux. D'autres y voient une preuve par l'absurde. Si la police s'inquiète d'être enregistrée par des lunettes, cela pose la question de tout ce que ces technologies enregistrent chez les citoyens ordinaires, tous les jours, sans que personne ne s'en inquiète autant.
Et au fond, la frontière entre vie privée et sécurité devient floue des deux côtés. Personne n'a vraiment de cadre clair pour ces objets. La seule certitude qui émerge des discussions, c'est que la question de la confiance envers les plateformes va devenir centrale dans les années qui viennent.
Ce qui nous amène naturellement à se demander quelles infrastructures et quelles plateformes méritent notre confiance. Et là, on a trois histoires qui répondent chacune à leur façon.
Commençons par la plus spectaculaire. Des centaines de vols annulés au Royaume-Uni à cause d'une panne du système de traitement des vols de Knights.
NATS, c'est le contrôle aérien britannique. Et quand son système de traitement des vols tombe, ce ne sont pas quelques vols qui sont en retard, ce sont des centaines d'annulations. Un chaos national. Un système informatique. Un seul, capable de paralyser le transport aérien d'un pays entier.
Les commentateurs qui travaillent dans l'industrie notent que ce genre de panne est souvent le symptôme d'une dette technique ancienne. Des systèmes critiques vieux de décennies, maintenus à bout de bras, dont personne n'ose plus toucher le code. Et que tant qu'un incident majeur ne se produit pas, aucun budget n'est alloué à la modernisation.
D'autres posent la question de la redondance. Pourquoi un seul point de défaillance peut-il avoir cet impact? Un système aussi critique devrait avoir des bascules, des solutions de secours. C'est une question d'architecture autant que de financement.
Et face à cette fragilité, une histoire plus tranquille mais significative, FreeBSD 14.5 Release a été annoncée. C'est le sixième lancement de la branche stable /14 et c'est du pur entretien.
Et il faut dire à quel point c'est rafraîchissant. Pas de refonte, pas de fonctionnalités claquantes, pas de conférences de presse. Une version de maintenance, propre, prévisible. Dans un monde où chaque éditeur veut réinventer son produit tous les 6 mois, FreeBSD fait ce qu'il dit, durablement.
Les commentateurs de longue date en font d'ailleurs un éloge. La valeur de FreeBSD, c'est justement cette stabilité, cette continuité sur des décennies. Pour les infrastructures critiques, c'est exactement ce qu'on veut. Ce qui fait un contraste saisissant avec la panne de NATS.
Et puis, il y a le troisième volet, qui est peut-être le plus préoccupant à long terme. Une dépendance massive à un seul acteur. Une étude montre que près de 9 entreprises européennes utilisatrices de CDN sur 10 dépendent de Cloudflare.
9 sur 10. C'est un niveau de concentration qu'on n'accepterait pas dans l'énergie ou les télécommunications. Si Cloudflare a un incident majeur, c'est une part énorme du web européen qui vacille en même temps. Et l'étude cite Bunny.net comme principale alternative.
Les commentateurs nuancent. Cloudflare est bon, fiable au quotidien, et son offre gratuite a permis à des milliers de petits projets d'exister. Le problème n'est pas la qualité, c'est la concentration. Le même raisonnement qu'avec NATS. Plus le point unique est central, plus la panne est coûteuse.
Et je note que certains voix appellent à une diversification délibérée. Un peu comme on parle de souveraineté pour l'IA avec Mistral tout à l'heure. C'est le même réflexe. Ne pas laisser un seul acteur, même excellent, contrôler une couche entière de l'Internet.
Et en parlant de choix de plateforme, le logiciel libre nous offre cette semaine deux philosophies opposées et assumées. D'un côté, LibreOffice, de l'autre, DaVinci Resolve.
Commençons par LibreOffice, parce que l'histoire est savoureuse. La version 26.8 dépasse le million de téléchargements hebdomadaires, et ça arrive juste après l'annonce que la suite ne contiendra pas d'IA générative, précisément pour des raisons de confidentialité.
Donc loin de freiner l'adoption, le refus assumé de l'IA semble coïncider avec un pic de popularité. Évidemment, corrélation n'est pas causalité, et les commentateurs le rappellent. LibreOffice a une base d'utilisateurs fidèles depuis des années. Administration, entreprise, particulier. Mais le moment est parlant. Il existe un public qui cherche activement des outils sans IA.
Plusieurs commentateurs disent avoir migré ou recommandé LibreOffice précisément à cause de cette position. L'absence d'IA générative devient un argument de vente, un critère de choix, au même titre que la compatibilité des formats. C'est un renversement culturel intéressant.
Et à l'autre bout du spectre, DaVinci Resolve, 21 janvier, ajoute une intégration avec des assistants IA, Claude et Codex, pour analyser des projets, organiser les médias et lancer des rendus en langage naturel.
Donc là, la philosophie est inverse. Au lieu d'exclure l'IA, on l'invite au cœur de l'outil, comme une interface supplémentaire. Tu dis à ton logiciel de montage ce que tu veux, il le fait. Organiser les rushs, préparer un rendu, analyser un projet en une phrase.
Les commentateurs qui montent des vidéos sont partagés. Les uns trouvent que ça correspond enfin à leur flux de travail, que l'organisation des médias est une tâche pénible et répétitive, parfaite pour l'automatisation. Les autres s'inquiètent de la dépendance à des services externes dans un outil professionnel et des implications pour les projets confidentiels.
Et je pense qu'il faut refuser de trancher à leur place. Les deux philosophies cohabitent, et c'est peut-être sain. Un monde où LibreOffice refuse l'IA et DaVinci l'embrasse, c'est un monde où l'utilisateur choisit. Le problème, c'est quand le choix disparaît.
Exactement. Et parlons justement de gens qui choisissent de faire les choses eux-mêmes. Notre sujet suivant, c'est le do-it-yourself, et il y a trois projets magnifiques.
Le premier, Copperhead, un agent d'IA open source qui conçoit des circuits imprimés dans KiCad. Et la manière dont il fonctionne est remarquable. 8 étapes, chacune avec des portes de vérification, des gates ERC et DRC, et un commit git par étape.
Expliquons les sigles. ERC et DRC sont les vérifications électriques et de conception, les contrôles qui valident qu'un circuit est correct. Donc l'agent ne fait pas juste générer du design à la chaîne. À chaque étape, il doit passer une vérification formelle avant de committer et passer à la suivante.
Les commentateurs du domaine de l'électronique sont impressionnés, avec des réserves, impressionnés parce que la conception de PCB était considérée comme un domaine où l'expertise humaine était difficilement automatisable, avec beaucoup de jugements et d'itérations. Réservés parce que les gates ERC et DRC ne couvrent pas tout. Un circuit peut passer toutes les vérifications et être un mauvais circuit d'un point de vue ingénierie. La question de la qualité réelle des designs produits reste entière.
Mais l'idée du workflow, vérifier à chaque étape et comité, elle fait l'unanimité comme bon pattern pour les agents de code, quel que soit le domaine. C'est de l'ingénierie de processus appliquée à l'IA.
Le deuxième projet est plus modeste mais délicieux. Quelqu'un a transformé un e-reader Accent Axe 3 en véritable imprimante IPP pour macOS sans pilote en utilisant quelque chose appelé Penguin.
IPP, c'est le protocole d'impression standard d'Internet, celui qu'utilise macOS nativement. Donc au lieu de bricoler un driver exotique, le créateur a fait parler le protocole standard à son matériel détourné. Un e-reader qui devient une imprimante reconnue directement par le système.
C'est l'esprit hacker news pur. Prendre un objet bon marché, comprendre ses rouages, et le détourner vers une fonction à laquelle personne n'avait pensé. Et le sans driver, c'est la cerise sur le gâteau, parce que les drivers d'impression sont historiquement une plaie.
Et le troisième projet nous ramène des décennies en arrière, des expériences de son 1 bit sur ZX Spectrum, du PCM, du PWMM et des accords multicanaux, le tout avec le beeper d'origine.
Le beeper du ZX Spectrum, pour contextualiser, c'est un haut-parleur piloté par un seul bit. Il peut faire un son ou pas de son, rien d'autre. Et des gens arrivent à en sortir du PCM, de la modulation de largeur d'impulsion et des accords sur plusieurs canaux. C'est de la magie de timing.
Et ces trois projets illustrent la même chose. La contrainte fait naître l'ingéniosité. Que ce soit un budget de composants, un matériel limité ou un haut-parleur à un bit, la restriction force à trouver des solutions que l'abondance ne fait pas émerger. Les commentateurs adorent ce genre de fils d'ailleurs, parce qu'on y apprend de vraies techniques, pas juste des produits.
Et il y a même un clin d'œil archéologique dans les discussions. Un article qui catalogue les snippets HTML obsolètes, XUA compatibles, les commentaires conditionnels d'Internet Explorer, la méta ICBM et autres reliques des guerres de navigateurs.
C'est un petit musée du web. Chaque snippet raconte une bataille perdue ou gagnée entre éditeurs de navigateurs. Et ça rejoint le thème. La technologie avance, mais elle traîne derrière elle des couches d'histoire, des compromis d'une époque, comme les stéréotypes dans les modèles ou la dette technique dans NATS.
Jolie synthèse, Nicolas. Et pour finir, notre dernier sujet. Comment regarder à l'intérieur de la boîte noire et comment cadrer les agents qui en sortent?
Le premier outil est un visualiseur web de l'attention dans les LLM. Le principe, l'opacité de chaque token est déterminée par la magnitude de son value vector et des composantes QK.
Pour vulgariser, dans l'attention, chaque token interagit avec les autres via des vecteurs, notamment les requêtes, les clés et les valeurs. Le visualiseur rend visible ces magnitudes, donc on peut voir, pour un token donné, quels autres tokens du contexte le modèle regarde vraiment et avec quelle intensité.
C'est un outil d'introspection, et les commentateurs du domaine soulignent son intérêt pédagogique autant que recherche. Voir l'attention, ça démystifie un peu le fonctionnement interne, et ça peut aider à comprendre pourquoi un modèle se comporte bizarrement dans certains cas. D'autres tempèrent. L'attention n'explique pas tout du fonctionnement des modèles, et un joli heatmap d'attention ne vaut pas une compréhension causale. Mais comme fenêtre, c'est précieux.
Et le deuxième élément est plus pragmatique. Une skill appelée I have ADHD, qui force les agents de code à produire des sorties actions d'abord et numérotées, avec 10 règles.
Le nom est pince sans rire, mais l'idée est solide. Les agents de code ont tendance à produire de longues explications avant d'agir, ce qui noie l'information utile. Cette skill impose un format. D'abord l'action, numérotée, structurée. 10 règles contraignent le modèle à être utile immédiatement.
Et certains commentateurs disent que ce format leur profite à tous, pas seulement aux personnes avec un TDA. Une sortie action d'abord et numérotée est simplement plus facile à suivre pour tout le monde. D'autres débattent de la bonne approche. Faut-il contraindre le format de sortie ou améliorer le modèle pour qu'il s'adapte lui-même? Le débat reste ouvert.
Mais je trouve que ces deux approches sont complémentaires, et c'est une belle note de fin. D'un côté, on ouvre la boîte noire pour comprendre ce que le modèle regarde. De l'autre, on cadre ce qu'il produit pour qu'il serve mieux. Comprendre et cadrer, les deux faces de la même entreprise.
Et ça boucle avec le début de l'émission, en quelque sorte. On a des modèles de plus en plus rapides, de plus en plus grands, de plus en plus chers, qu'on essaye de faire tenir sur des SSD dont on scrute l'attention, dont on discipline les sorties, et dont on se méfie quand ils fabriquent des biais ou des consentements.
Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain pour une nouvelle fournée. D'ici là, regardez bien ce que vos lunettes connectées enregistrent.
À demain.